Caro mea veres cibus, ma chair est véritablement une nourriture, et sanguis meus veres potus, et mon sang est vraiment un breuvage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. Ce mot, vraiment, sur lequel notre Seigneur insiste à deux reprises, a pour but d'attester en premier lieu l'efficacité indubitable de ce mystère, et en second lieu sur le fait qu'il possède réellement, vraiment, les propriétés de la nourriture. En effet, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, contenu dans ce sacrement, est véritablement le pain qui nourrit les âmes et les soutient dans la vie spirituelle. Le propre des sacrements de la Nouvelle Loi, vous le savez, est qu'ils effectuent réellement ce qu'ils représentent, ce qu'ils signifient. Rappelons-nous, nous en avons déjà parlé à l'occasion du Jeudi Saint, au sujet de ce même sacrement. Les sacrements sont des signes sensibles, efficaces de la grâce. C'est la définition du catéchisme, dont le propre est de produire intérieurement dans les âmes ce qu'ils opèrent extérieurement sur les corps. Ainsi, pour le baptême, le lavement du corps qui s'accomplit pendant le rite représente et effectue réellement, vraiment, la purification de l'âme de toutes les souillures du péché, tant le péché originel que les péchés actuels dans le cas du baptême d'un adulte. À la messe, la consécration séparée du pain et du vin, qui deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, signifie la séparation de son corps et de son sang qui a eu lieu sur la croix, par laquelle tous les péchés des hommes ont été réparés. Le fait également que notre Seigneur se donne à nous sous la forme sensible d'une nourriture signifie aussi ce qu'il fera véritablement, vraiment dans nos âmes. Si donc il soutient extérieurement notre corps, la conséquence est qu'il nourrit intérieurement également notre âme d'une nourriture invisible, et ceci afin de conserver la vie spirituelle dont elle doit être animée. Pour bien comprendre ce qu'est la vie spirituelle et quel en est son aliment, il faut avoir à l'esprit qu'il y a, pour tout homme, normalement, trois vies possibles. La première, qui est commune à tous, que tous connaissent, est la vie naturelle, la vie de la nature. La deuxième vie est propre uniquement aux fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vivent dans sa grâce, dans son amour, qui sont fidèles à sa parole. Et la troisième vie et le partage unique des âmes bienheureuses qui résident dans le ciel, ces âmes qui ont réussi le passage, qui ont réussi cette épreuve de cette vie, qui ont été fidèles jusqu'à la mort à notre Seigneur Jésus-Christ. Trois vies. Or, toute vie a besoin d'un aliment pour se soutenir. Ainsi, la vie de la nature est sustentée par la nourriture matérielle, par les aliments de cette terre. Celle de la grâce, par contre, et celles de la gloire, sont entretenues par Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la nourriture des deux dernières vies. Dieu caché dans le Saint Sacrement, sous l'apparence du pain et du vin, pour la vie de la grâce, ou Dieu se montrant à découvert dans le ciel, pour la vie de la gloire. Ces trois vies, bien sûr, ne sont pas sans rapport entre elles. La vie du corps ne nous est donnée que pour nous permettre d'obtenir celle de la grâce. La grâce, en effet, se greffe sur la nature, comme on dit communément. Et quelle serait l'utilité de maintenir cette vie matérielle, de chercher à prolonger cette vie ici-bas sans vivre de la grâce, vivre en dehors de l'amour de Dieu, pour au final aller brûler pour toujours en enfer? Quelle utilité ? Non, cette première vie est ordonnée à cette seconde vie. Dieu nous a donné la vie du corps pour que nous puissions jouir de la vie de la grâce. Et cette vie de la grâce qui nous perfectionne, nous sanctifie en nous faisant vivre de la vie de Dieu, nous rend aptes, après cette vie, à entrer dans la gloire, à recevoir cette troisième vie dont jouissent les bienheureux dans le ciel. Le Saint-Sacrement est la nourriture par excellence de la deuxième vie, celle de la grâce. Et par là, il nous dispose et prépare à la vie de la gloire. Par lui, en effet, notre Seigneur Jésus-Christ, habitant dans notre âme, la sanctifie dans le siècle présent pour lui donner plus tard la béatitude dans le ciel. Il l'orne maintenant par sa bonté pour l'orner ensuite par sa lumière. Il lui accorde maintenant l'esprit d'adoption afin de lui accorder dans la suite l'héritage céleste qu'il réserve à ses enfants. Voilà pourquoi notre Seigneur dit « Qui mange ce pain vivra éternellement ». La question qui se pose ici est de savoir comment, de quelle façon, ce pain eucharistique nourrit et conserve la vie spirituelle en nous. Quel est son mode d'action? Comment agit-il? Il le fait de trois manières, qui reprennent trois propriétés de la nourriture corporelle. Car de la même manière que les aliments de cette terre ont la propriété de réparer nos forces, également de chasser la langueur et de ne faire plus qu'un avec nous, ainsi ce sacrement va réparer nos forces, va chasser la langueur spirituelle et enfin va nous unir à lui. Premièrement, ce sacrement répare nos forces. Il a en effet la propriété de remettre les péchés véniels qui sont inévitables dans cette vie. Saint Denis fait remarquer que ce sacrement est un feu spirituel qui consume et détruit la paille des fautes légères. Et saint Ambroise se fait cette réflexion. Si toutes les fois que le sang de Jésus-Christ est répandu, il est répandu pour la rémission des péchés, aussi je dois le recevoir toujours. Moi qui ne cesse de pécher, je ne dois pas cesser de recourir aux remèdes. Et saint Ambroise ajoute dans un autre passage, tout blessé désire un remède. Or, l'état de péché est une blessure, dont le remède est ce sacrement vénérable. Premièrement, le Saint-Sacrement répare les forces. Deuxièmement, ce sacrement nous redonne de l'énergie, chasse la langueur spirituelle. Et cela ne peut être autrement. Nous recevons en effet notre Seigneur Jésus-Christ en nous, vrai Dieu, source de la charité. Comment pourrait-il venir en nous sans en même temps augmenter notre amour pour lui? Comment ce feu divin pourrait rester inerte en nous, froid? Non, bien au contraire. Ce feu divin vient en nous pour nous enflammer d'amour pour lui, nous transformer. Et en conséquence de cette augmentation de dévotion, de charité qu'il apporte en nous, le Saint-Sacrement va venir diminuer les germes de mort, la concupiscence. Pensons que lorsque nous recevons notre Seigneur, nous recevons un corps on ne peut plus vierge, on ne peut plus détaché des plaisirs des sens. Combien nous devons demander en ce temps où tout tombe dans le plaisir impur, tout est tourné vers l'impureté. Ce sacrement répare nos forces, il chasse la langueur spirituelle. Troisième effet, une union des plus intimes avec notre Seigneur. Dans la nutrition corporelle, nous assimilons ce que nous mangeons pour le transformer en notre corps. Il y a cependant une différence dans l'Eucharistie. Notre Seigneur ne va pas devenir nous-mêmes, une partie de nous. Cela n'aurait pas de sens. Si la nourriture corporelle que nous avalons nous est inférieure, il n'en est pas de même de cette nourriture spirituelle. Elle nous dépasse de beaucoup. Elle nous dépasse infiniment. Nous recevons notre Créateur et Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand. Et c'est donc le contraire qui se produit. Notre Seigneur nous change en lui. Et c'est ici que nous pouvons comprendre pourquoi cette nourriture nous prépare au ciel. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, Dieu le Père ne nous acceptera au ciel que s'il reconnaît en notre âme le doux visage de son Fils bien-aimé. Ce don de la Sainte Eucharistie n'a d'autre but que de faire de nous, à notre petite mesure bien sûr, d'autres Christ. Afin que nous puissions dire, avec saint Paul, « Je vis, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Par une union de tout instant, une union de pensée, une union de volonté, une dépendance continuelle à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa miséricorde. Ajoutons un dernier effet de cette nourriture. Toute nourriture, la nourriture corporelle notamment, apporte à celui qui en use un certain plaisir, une certaine délectation. Cela est si vrai que s'il était pénible de manger, si cela réclamait un grand effort, beaucoup de gens se laisseraient mourir de faim. Il en est de même pour la nourriture spirituelle. Le bon Dieu a ainsi conféré à cette nourriture spirituelle un plaisir, une délectation. Ceci afin que les hommes ne négligent point cette nourriture de leur âme, sans laquelle la vie spirituelle ne saurait se conserver. Le bon Dieu a donné un plaisir à l'absorption de nourriture corporelle, afin que la vie mortelle ne vînt point à défaillir. Aussi, à combien plus forte raison a-t-il dû employer un moyen semblable pour que les âmes ne manquassent point de la nourriture divine, d'où dépend la nourriture éternelle. Il est donc certain que la nourriture spirituelle surpasse en suavité la nourriture corporelle, et ceci dans la même mesure qu'elle la surpasse en nécessité, et que l'âme surpasse le corps en noblesse. Si certains qui prennent ce pain céleste n'en goûtent pas les délices, la faute n'en revient pas au sacrement, mais à ceux qui la reçoivent. La cause, le manque de dévotion, le défaut de préparation. Saint Augustin a dit très justement que Jésus-Christ notre Seigneur est ce que goûte l'âme purifiée, c'est-à-dire qu'il n'est goûté pleinement que de ceux dont le palais de l'âme est pur de la contagion des voluptés terrestres, des plaisirs désordonnés de cette terre, des attaches au péché. Et nous parlons ici des attaches au péché véniel. On ne communie pas avec un péché mortel sur la conscience. Il faut se confesser avant. Mais si on est attaché à des péchés véniels, il ne faut pas s'étonner de ne trouver que peu de goût à la communion. Notre Seigneur retire ses consolations. La manne, qui est une figure de ce sacrement, ne fut accordée aux Hébreux dans le désert du Sinaï qu'après qu'ils eurent consommé toute la farine apportée d'Égypte. Ainsi, de façon identique, seuls ceux qui renoncent à la farine de l'Égypte, c'est-à-dire aux voluptés de ce siècle, peuvent goûter les joies que Dieu réserve à ceux qui communient avec un cœur pur. La joie est en effet éveillée par la présence de l'objet aimé. Aussi, de quelle joie ne sera pas inondé celui qui brûle d'amour pour notre Seigneur quand il le reçoit au fond de son cœur, quand il jouit de sa présence au plus intime de lui. Alors, prenons quelques résolutions. Bien évidemment, la première résolution à prendre est de soigner nos communions. Par une vraie préparation, tout d'abord, en lisant sa messe, pour profiter des beaux textes que la liturgie met à notre disposition pour préparer nos messes, préparer notre union au sacrifice de notre Seigneur, préparer nos communions. En examinant aussi notre conscience, pour s'approcher du Saint-Sacrement, avec une âme aussi pure que possible. Et à ce sujet, on communie d'autant mieux que l'on se confesse bien. C'est un adage. Soignons également nos actions de grâce. Quel trésor nous possédons dans notre âme. Sachons donc donner du temps à notre Seigneur, rester auprès de lui, lui tenir compagnie, nous laisser transformer par sa bienfaisante présence au plus intime de nous. Et puis enfin, sachons profiter des messes qui sont dites en semaine pour s'approcher de la Sainte Table, autant que cela nous est possible, bien sûr. Lorsque l'on est pris par le désir de s'unir au bon Dieu, au bon Jésus, par la communion, de ne faire plus qu'un avec lui, d'unir notre volonté à la sienne, on cherche à assister souvent à la messe. On fait des efforts pour se rendre à la messe en semaine. Et puis surtout, on se sent porté à communier souvent de façon spirituelle. On accorde un grand prix à la communion spirituelle. C'est la moindre chose à faire quand on ne peut aller à la messe. Alors laissons-nous toucher par l'amour de notre Dieu. Personne ne nous aime comme il le fait. Et dans le don de son amour pour nous, rien n'est plus grand que le Saint-Sacrement. Aussi ne bâclons pas nos communions, au contraire, soignons-les bien. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.